RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Merci d'être là et bonjour à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC. En tout cas, on est ravis d'être là. Jusqu'à 8h, votre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, 8h, 10h. L'essai de la semaine, l'Opel Mokka X. Peut-on mettre des ampoules plus puissantes dans les phares? Et puis, on évoquera aussi des bons plans pour partir en vacances, tiens, avec notamment des nouveautés du côté de Blablacar. On verra ça tout à l'heure et puis on évoquera aussi la vignette Critère, qui, vous le savez, est obligatoire dans Paris Intramuros à partir du 1er juillet. Mais d'ici là, donc, les animaux, Laetitia, tout à l'heure, on évoquera le grand méchant renard, le dessin animé qui est sorti le 21 juin dernier.
Et voilà, une production française. C'est un film d'animation. Et
Vous savez quoi?
Aujourd'hui, c'est la fête du
cinéma.
Voilà,
enfin jusqu'au 28, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour 4 euros, vous pouvez aller voir le film que vous voulez, et pourquoi pas donc Le Grand Méchant Renard.
Voilà, et allez-y en famille, vous allez voir, il y a vraiment deux lectures, comme on dit, pour les enfants et pour les adultes.
Voilà, comment le chat conquit le monde, on verra ça tout à l'heure, on évoquera les éoliennes aussi, qui peuvent faire des dégâts chez les oiseaux, hein, Laetitia, on le comprend assez aisément. Mais pour débuter, on va découvrir ce parti politique pour animaux qui s'appelle le Parti Animaliste.
Voilà, et nous sommes avec Nathalie Dehan, qui est coprésidente du Parti Animaliste. Nathalie, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que lors des élections législatives, est apparu, en tout cas pour le grand public, un nouveau parti sur la scène politique, le Parti Animaliste, reconnaissable à vos affiches avec un ton mauve et une photo surtout de chaton à la place de la photo du candidat, ce qui a intrigué plus d'une personne. Et vous avez présenté 147 candidats partout en France. Alors ce parti a 7 mois d'existence officielle. Alors comment est-il né?
Alors, tout simplement, nous sommes quelques citoyens concernés par les animaux et donc la protection animale.
Oui.
Nous avons d'abord été investis dans des associations de protection animale et puis nous avons fait le constat que ces associations-là, si elles font un travail extraordinaire sur le terrain, leurs propositions, leur travail ne se traduit pas en dispositions législatives et réglementaires. Elles se heurtent, ces associations, trop souvent à l'indifférence des décideurs politiques.
C'est vrai.
Et il n'y a pas d'avancée politique concrète par rapport au sort des animaux, qui donc retombe souvent sur les épaules de quelques bonnes volontés. Et donc, du coup, s'est imposée l'idée d'un parti politique.
C'est quand même monothématique, c'est-à-dire que votre parti, votre programme est centré sur les animaux, la condition animale, ce qui est quand même complètement inédit en politique. Oui. Vous n'avez pas eu peur de ne pas être prise au sérieux, justement?
Alors, les gens qui travaillent pour les animaux souvent sont moqués, malheureusement, hein, pour leur action. Nous attendions un petit peu à ça, mais au final, nous nous sommes rendus compte que les citoyens, les électeurs étaient plus intrigués, intéressés et approuvaient notre projet que moqueurs. Et nous avons vraiment pris le temps de réfléchir, de construire notre projet pendant 2 ans. Nous avons élaboré des statuts, un programme.
Oui.
Nous avons beaucoup réfléchi. Donc cette identité monothématique, c'est-à-dire uniquement axée sur les animaux et ne se positionnant pas sur des thèmes classiques, traditionnels, c'était très important pour nous, pour rassembler des gens pour qui la protection animale est importante, urgent et prioritaire.
Oui.
Et aussi pour montrer que c'est quelque chose qui est plus important peut-être que nos thèmes traditionnels et notre classification classique. Nous avons donc beaucoup réfléchi et nous avons participé à des colloques internationaux et à des sessions de travail. Donc on est un groupe de Français, nous avons créé un parti politique français et nous avons intégré une dynamique internationale initiée par le Parti pour les animaux néerlandais.
Oui, parce que en fin de compte, votre parti, c'est un peu le calque d'autres partis qui existent en Europe.
Alors, on a beaucoup réfléchi à ce qui pouvait être notre identité française. C'est un vrai parti français.
Mais ce qui veut dire quand même qu'il y a des partis pour les animaux, mais dans d'autres pays, ce qu'on sait peu, en fin de compte.
Oui, absolument. Donc nous avons pu effectivement rencontrer, nouer des relations professionnelles et personnelles avec, par exemple, le sénateur australien de Animal Justice Party, donc Mark Pearson. Ils ont un sénateur animaliste, voilà.
C'est incroyable.
Avec l'équipe de travail aussi d'André Silva, qui est un député portugais du parti animaliste portugais. Mmh. Et nous avons eu le bonheur de rencontrer et de travailler avec Amia, l'eurodéputée néerlandaise, Christine Tennyson, la sénatrice, Marianne Thieme, qui est la cofondatrice du Parti pour les animaux, qui est aussi députée. Donc on a pu rencontrer des gens extraordinaires, animalistes, qui comme nous au début avaient commencé avec peu de moyens et peu de visibilité, et qui au final ont été élus.
Alors, qui était, alors, comme je parlais de l'affiche avec ce chaton, donc on voyait pas du tout les candidats. Qui étaient ces candidats? Est-ce qu'ils sont tous issus de la société civile? Font-ils partie d'associations aussi? Donc vous avez dit oui, mais ce ne sont pas des associations derrière votre parti. Et alors, j'ai entendu aussi que les deux tiers de vos candidats étaient des candidates.
Oui, alors les profils des candidats, c'est à peu près donc de 19 à 70 ans, des ruraux, des urbains, venus de 54 départements différents, répartis effectivement dans 147 circonscriptions. Donc on voit là que la cause animale intéresse énormément les Français, que c'est une cause transversale, ils avaient diverses sensibilités ou diverses opinions, et ils se sont rassemblés sur le fait de faire progresser notre société en incluant les animaux dans nos préoccupations. Effectivement, nous sommes complètement autonomes et indépendants de toutes les associations. Beaucoup de candidats, effectivement, la grosse majorité, vient de la société civile. Très peu d'entre nous ont une expérience politique.
Oui.
Où effectivement il n'y a aucune association derrière nous, on est complètement autonome. C'est pareil, on est complètement autonome et indépendant de tous les partis politiques.
Alors aucun de vos candidats n'a été élu. Alors mais vous avez quand même dépassé le seuil de 1% des voix. Alors faut savoir quand même que dans 86 circonscriptions, ce qui vous donne quand même vous allez quand même toucher des subventions publiques puisque vous avez passé les 1% des voix. Vous avez même eu un record à 2,87% des voix dans une circonscription corse. Alors vous allez, j'ai lu que vous alliez toucher plus de 90 000 euros par an tout au long du quinquennat. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ?
Alors non, pas tout à fait. Déjà, c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a un contrôle de tous les comptes de campagne, comme pour tous les partis.
Oui.
Ensuite, nous sommes ceux qui allons le recevoir le moins par rapport aux grosses sommes des
gros
partis.
Oui, aux autres qui ont des millions, quand même, faut le préciser.
Très loin,
parce qu'ils ont plus de lecteurs.
Nous allons être...
Et puis je crois que vous avez un problème de parité chez vous, mais dans l'autre sens.
Voilà, en fait, nous allons recevoir des subventions très minorées, nous allons avoir des pénalités. Parce que nous n'avons pas respecté à la lettre la loi sur la parité, nous avons présenté effectivement à peu près 2/3 de femmes et 1/3 d'hommes.
C'est dans l'autre sens. C'est incroyable parce que la plupart des partis, même tous les partis, vont être pénalisés parce qu'ils présentent trop d'hommes, justement.
Voilà.
Vous présentez trop de femmes.
Voilà, à présenter plus de femmes. Nous n'avons pas voulu nous priver de candidatures intéressantes parce que c'était des femmes. On va essayer désormais de respecter à la lettre cette loi sur la parité. Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord. Mais là, ça nous a paru complètement difficile à quelques mois d'existence de trier comme ça. Et du coup, effectivement, nous allons continuer à avoir besoin de dons et d'adhésions parce que cette subvention va être très minorée.
C'est quoi votre objectif maintenant ?
Alors, pour le moment, nous avons 4 moyens pour nous faire connaître. Nous avons un site, une page Facebook, un compte Twitter et une chaîne YouTube, où sont par exemple les vidéos de ceux qui nous soutiennent. Notre futur, nous le voyons, on a déjà essayé d'être présents pour chaque élection, donc probablement les européennes.
Oui.
Voilà. Et pour les européennes, ce qui va être émouvant aussi, c'est que tous nos autres collègues animalistes vont se présenter ou se représenter. Sylvia, la responsable de PACMA, va se présenter. Elle a des chances d'être élue comme eurodéputée.
Mmh.
Voilà, donc nous allons mettre tout notre effort et toutes nos subventions pour la communication, pour que déjà 100% des Français nous connaissent. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons dépassé 1% dans 86 circonscriptions, mais très peu de Français au final nous connaissent, savent que nous existons. Donc déjà, tous les efforts vont être sur la communication et investir les candidats, les futurs candidats pour les futures élections. Et puis nous allons aussi créer des bureaux régionaux à l'initiative du Bureau national pour ancrer le parti animaliste durablement en France et dans le paysage politique français.
Très bien. Alors, si on veut en savoir plus, vous avez un site,
partianimaliste.fr.
Avec, bien sûr, tout votre programme, vous proposez, entre autres, la création d'un ministère de la condition animale. Voilà.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Nathalie.
Merci beaucoup à vous deux. Merci.
Et rendez-vous aux prochaines élections.
Voilà, exactement. Bon dimanche.
Pour voir si le parti progresse. Sater 21, on revient dans un instant sur RMC. Les éoliennes sont-elles meurtrières pour certains animaux? Et bien évidemment, les oiseaux, on en parle dans un instant avec notre invité. Et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre ce matin 3216 animaux@rmc.fr par mail ou via l'appli RMC Direct Studio pour joindre notre vétérinaire. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est 7h23, le retour du week-end des experts, les animaux. Laetitia, on en voit de temps en temps lorsqu'on sillonne les routes de France, ces éoliennes. Alors certains les trouvent majestueuses, d'autres les trouvent horribles. Mais c'est vrai que ça fait partie de cette électricité propre. On sait que il y a pas mal de détracteurs concernant l'éolienne. Ça fait du bruit, ça défigure un peu les paysages, etc. C'est vrai que c'est pas hyper joli.
On peut pas passer à côté sans les voir, quoi.
Mais alors il y a un problème qu'on n'avait jamais soulevé, c'est que les éoliennes peuvent être aussi meurtrières pour les animaux.
En tout cas, c'est aussi ce qu'on leur reproche. Et nous avons avec nous Geoffroy Marx, qui est responsable programme énergie renouvelable et biodiversité à la LPO, qui est, vous le savez bien sûr, la Ligue pour la protection des oiseaux. Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, la France compte environ, même plus de 6000 éoliennes. Donc, comme on disait, c'est la deuxième énergie renouvelable après l'hydraulique. Et c'est vrai que ces gigantesques hélices qui tournent pourraient être des obstacles pour les animaux qui volent, qui risquent de les percuter. Et la LPO a mené son enquête et fait un bilan des études en France. Alors, quel est-il ? Est-ce que les éoliennes sont meurtrières ?
Alors, les éoliennes sont des infrastructures qu'on implante dans l'espace aérien qui est habituellement utilisé par les oiseaux ou les chauves-souris. Donc, en effet, il y a un risque de collision qui existe, comme avec des pylônes électriques ou des phares, des piles de pont ou des plateformes pétrolières ou des immeubles. Toutefois, la différence par rapport à d'autres énergies qui peuvent avoir des impacts extrêmement diffus sur ces oiseaux et sur ces chauves-souris, du fait de pollution, par exemple les énergies fossiles, à cause de la pollution de l'air, la particularité des éoliennes, c'est qu'elles ont un impact uniquement là où elles sont implantées. C'est-à-dire que si vous les implantez...
C'est-à-dire qu'on voit tout de suite s'il y a mort ou pas, quoi. C'est un peu ça.
Et surtout, vous pouvez faire en sorte de les implanter de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact.
Mais alors, justement, les études, qu'est-ce qu'elles montrent exactement? Est-ce qu'il y a des impacts? Parce que moi, j'ai vu des vidéos où on voyait un rapace s'impacter sur l'hélice, quand même. Et vraiment,
Oui, bien sûr.
Un accident d'hélice.
Ce sont en effet des choses qui arrivent. Alors, je pense que la dernière vidéo auquel vous faites référence, c'était un montage, un vidéo.
Ah, mais c'était pas une vraie vidéo, d'accord.
Mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des pays où les parcs éoliens ont été implantés dès le début des années 70, avec des milliers de parcs qui font des milliers d'éoliennes. D'ailleurs, vous imaginez, par exemple, le même nombre d'éoliennes que ce qu'il y a aujourd'hui en France, mais concentré sur un espace comme la commune de Millau. Donc ce sont des plus petites éoliennes et qu'on était implantées à une époque où la prise en compte de la biodiversité n'était pas celle qui existe aujourd'hui. Donc en effet, sur ces parcs, en particulier aux États-Unis, on retrouve des aigles qui sont tués par des machines. En Espagne également, il y a beaucoup, mais vraiment des milliers de vautours pauvres qui ont été retrouvés sous les éoliennes. On ne retrouve pas ce type de mortalité en France où le développement éolien a commencé
Oui, il est moins développé quand même, peut-être.
Vraiment très à la fin des années 90, vraiment, réellement, à partir de 2000-2005, la prise en compte de la biodiversité a été quand même bien meilleure.
Mais alors, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce qu'elles sont meurtrières ou pas? Combien d'animaux ont été victimes de ces éoliennes? Est-ce qu'on a des chiffres?
Alors, on a des chiffres. La LPO a compilé 197 rapports de suivi de mortalité.
Oui.
Ça fait l'équivalent de pratiquement 38 000 prospections qui ont été réalisées au pied des éoliennes. Quand je dis prospection, c'est-à-dire qu'on recherche dans un rayon autour de 50 mètres autour de chaque machine, toutes les semaines pendant une période donnée qui dépend des enjeux du site. Donc en moyenne, c'est 26 semaines. 6 mois dans l'année, on fait ça.
D'accord. Le résultat.
Et le résultat.
Alors non, vous savez quoi? Parce que là,
Geoffroy, vous ne voulez pas répondre à la question.
Attendez. Geoffroy, on va revenir dans un instant parce que là, le teasing est né. Vous allez être obligé de répondre, hein, Geoffroy, dans tous les cas. Et on revient dans un instant parce que la météo, les infos arrivent. Et on poursuit donc sur ce sujet, les éoliennes et les oiseaux. Après la météo et les infos, 32-16, peut-être avez-vous, des éoliennes à côté de chez vous. Voilà, hein, ça peut arriver. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, des accidents dedans et des animaux qui ont foncé sur des éoliennes? Vous pouvez nous dire, témoigner. 32-16-animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC. Et direct studio, on revient dans une minute. À tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Un grand merci d'être là, fidèle à vos rendez-vous du week-end sur RMC. Tout à l'heure, l'automobile avec Jean-Luc Moura à partir de 8h, mais là, pour l'instant, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Tout à l'heure, Laetitia, on évoquera le dessin animé Le Grand Méchant Renard, sorti dans les salles le 21 juin dernier et que nous vous invitons à découvrir. On aura la chance d'avoir Benjamin Renner, son réalisateur. Comment le chat conquit le monde? On s'intéressera aussi
et oui,
à cette grande question.
Études de paléogénétique, hein, oui, réalisée par une équipe française.
L'histoire du chat domestique.
Et voilà, comment il a été domestiqué, où a-t-il été domestiqué, comment a-t-il conquis le monde.
Voilà, mais auparavant, on monte un petit peu dans le ciel et on s'intéresse aux éoliennes qui, évidemment, peuvent être, on va dire, des obstacles importants pour les oiseaux.
Exactement, pour les animaux qui volent. Donc, nous sommes toujours avec Geoffroy Marx de la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors, Geoffroy, vous parliez d'une étude, d'une enquête qui a été faite par la LPO avec un bilan concernant l'impact des éoliennes sur la faune volante. Dites-nous alors, quels sont les résultats de cette enquête?
Alors, les 38 000 prospections qui ont été documentées et rentrées en base de données ont permis en fait de découvrir un peu plus de 1000 cadavres d'oiseaux sur les 15 dernières années. Alors c'est bien sûr pas la mortalité réelle, c'est celle qui a
Oui, parce que si on y va qu'une fois par semaine, entre-temps il y a le renard qui est passé, quoi.
Voilà, donc il y a des tests qui sont réalisés sur certains parcs pour mesurer justement la durée de persistance des cadavres, le taux de détection des observateurs en fonction de la couverture végétale, etc. Ensuite, il est possible d'appliquer des formules standardisées qui existent à l'échelle internationale.
Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup, pas beaucoup, c'est...
Et donc, ça veut dire que globalement, c'est pas tant que ça.
Quels sont les oiseaux, les premières victimes?
Pour terminer, globalement, c'est pas tant que ça, mais c'est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y la plupart des parcs ne tuent pas beaucoup d'oiseaux. On peut dire que l'impact est négligeable. Par contre, il existe ponctuellement des parcs qui peuvent tuer beaucoup d'oiseaux, voire plus problématiquement, des parcs qui peuvent tuer quelques oiseaux, mais patrimoniaux, des oiseaux rares, des oiseaux qui sont dans un état de conservation inquiétant.
Et là, tout dépend de l'endroit où se situe l'éolienne, c'est ça?
Quels sont les endroits meurtriers pour les oiseaux? Alors, pour qu'on leur passe le message.
Les endroits les plus meurtriers, ce sont nécessairement la proximité des ZPS, en fait. C'est ce qui ressort de l'étude.
Des quoi?
Donc, les zones de protection spéciale, ce sont les zones Natura 2000. Ils reconnaissent peut-être plus la zone Natura 2000.
C'est des zones protégées?
Des zones protégées à enjeu très fort pour la biodiversité, en particulier pour les oiseaux. parce qu'il concentre un nombre important d'oiseaux qui appartiennent à des espèces patrimoniales. Alors, ça peut être des rapaces, mais ça peut être des gobe-mouchoirs, des brouillangeaux.
Et justement, quelles sont les victimes des éoliennes les oiseaux de nuit, les oiseaux de jour?
Alors, les oiseaux qu'on retrouve le plus au pied des éoliennes, ça va peut-être étonner nos auditeurs, l'oiseau qu'on retrouve le plus, c'est le roitelet à triple bandeau. C'est le plus petit oiseau d'Europe.
Oui.
Pratiquement personne n'a aperçu en France. Mais c'est celui qu'on retrouve en plus grand nombre parce qu'il migre la nuit. Et comme la plupart des passereaux, hein, les moineaux, les rouges-gorges, ils migrent la nuit, mais ils migrent par millions, par dizaines de millions de nuits. Et donc, il y a quelques individus dans le lot qui se prennent les obstacles.
Donc, c'est plutôt des
à cause des pales qui tournent d'ailleurs. Hein.
C'est-à-dire
ça peut être le pylône carrément.
Voilà, il y a un obstacle, il rentre dedans parce qu'il ne le voit pas. C'est pas le même mécanisme que les rapaces, qui eux sont réellement les espèces les plus impactées au regard de leurs effectifs de population qui n'ont rien à voir.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Là, on parle d'oiseaux nicheurs en France dont les populations sont limitées à maximum 10 000 couples nicheurs en France.
Et donc le rapace, lui, se fait attraper, j'allais dire, entre guillemets, par la pale de l'éolienne,
voilà,
c'est ça?
Le rapace va se faire surprendre par la vitesse des pales, en bout de pale.
D'accord.
Il n'est pas aspiré?
Non. Ils ne sont pas aspirés à proprement parler. Les chauves-souris peuvent
alors, avoir, les chauves-souris, là aussi, on en parle beaucoup, les chauves-souris et les éoliennes. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de mortalité?
Globalement, on retrouve à peu près le même nombre de cadavres de chauves-souris et d'oiseaux sous les éoliennes. Par contre, la grande différence, j'ai envie de dire, alors c'est problématique hein, parce que les populations de chauves-souris
sont déjà
soumises à une énorme pression de la part
des animaux qui sont protégés.
Anthropiques, enfin, je pense à la pollution, aux pesticides, à la destruction des gîtes. Enfin, voilà, c'est pas les éoliennes qui tuent les chauves-souris. Les éoliennes, c'est un petit truc qui vient se rajouter aux principaux impacts qui impactent les populations. Mais la grosse différence entre les chauves-souris et les oiseaux, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de réduire la mortalité des chauves-souris sur des parcs qui seraient problématiques. On s'est rendu compte que les chauves-souris étaient pratiquement impactées par cette vitesse de vent. Donc, il suffit d'éteindre les éoliennes, les empêcher de démarrer avant une certaine vitesse, et on est capable de réduire la mortalité de 50%, 60%, 90% sur
certains parcs. D'accord, mais forcément, on produira moins d'électricité.
C'est à la marge, parce que quand il y a des très faibles vitesses de vent,
la production n'est pas énorme.
Mais ne produisent pas.
Ça, c'est suivi.
Et il y a des publications dans tous les pays qui montrent que c'est très efficace. Par contre, de tels mécanismes n'existent pas pour les oiseaux.
D'accord.
Et ça, c'est pour ça que la première mesure qui est recommandée par la LPO, c'est d'éviter les cités en jeu, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui est efficace. Il y a d'autres choses qui sont testées comme les effarouchements, la mise à l'arrêt des machines lorsqu'une caméra détecte un rapace dans le champ de vision de la caméra. Mais ça, aujourd'hui, même si ça peut réduire à la marge la mortalité, il n'y a pas de publication aujourd'hui qui montre que c'est totalement...
Donc ce que vous demandez, c'est qu'on ne construise pas d'éoliennes, qu'on ne mette pas en place d'éoliennes près de zones protégées.
Oui, des parcs naturels, des zones protégées.
Où il peut y avoir beaucoup d'animaux et d'oiseaux si protégés.
Voilà, bon, ça paraît tout à fait logique. Hein. Mais aujourd'hui, la réglementation n'interdit pas l'implantation d'éoliennes en ZP.
Parfait, merci beaucoup, Geoffroy.
Merci. Je rappelle que vous êtes de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et allez sur le site pour avoir plus de renseignements sur cette étude.
Voilà, il est 7h39 sur RMC. On enchaîne tout de suite avec le chat. Et on a, Laetitia, quelques révélations à faire sur l'histoire du chat domestique maintenant.
Oui, on a les résultats d'une vaste étude de paléogénétique et nous sommes avec Eva Maria Gaesch, qui est chercheure spécialiste de paléogénétique à l'Institut Jacques Monod, qui a pris part à cette étude, une étude internationale quand même. Eva Maria, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Alors, juste en deux mots, c'est quoi la paléogénétique?
La paléogénétique étudie le matériel héréditaire, donc l'ADN, des traces d'ADN qui peuvent être conservées dans le reste d'organismes du passé.
D'accord. Et donc là, vous avez analysé 230 individus anciens, dont des momies de chats. Hein.
230 échantillons, voilà. Pas seulement des momies, hein. C'était surtout des restes osseux, donc des restes d'os et de dents.
D'accord, de chats, bien sûr. Que nous a-t-elle appris cette étude sur les origines du chat domestique ? D'abord, d'où vient-il ? Quand a-t-il été domestiqué ?
D'où vient-il ? On a trouvé qu'il y avait les chats anatoliens qui, avec les premiers agriculteurs qui ont traversé le Bosphore pour commencer à coloniser l'Europe,
oui.
Ils avaient le chat anatolien avec eux. Oh. Et puisque le chat ne va pas nager dans la mer, mmh. Ce chat a dû être transporté.
De par
là,
bateau.
On déduit que le chat s'est rapproché des villages humains, des premiers agriculteurs, puisque le chat, en soi, le chat sauvage est un animal solitaire.
Mmh.
Il tolère ni l'humain, ni les autres chats. Et là, il était avec les humains. Et donc, on déduit que le chat a dû se rapprocher des humains. Et ça fait assez sens, en fait, au début de néolithique, hein, les humains ont inventé l'agriculture, et donc ils ont accumulé les graines, et les graines ont évidemment attiré des masses de rongeurs,
oui.
Et les chats sauvages autour, ceux qui n'étaient pas trop heureux, ont dû se rapprocher de ces accumulations de graines, et ont dû profiter de ces rongeurs, et donc... se sont rapprochés des villages.
Ça veut dire que c'est le chat qui a domestiqué l'homme, et non pas l'inverse.
Non, ça ne peut pas dire, mais c'était une relation qui était bénéfique pour
les
deux côtés.
D'accord.
Ils s'étaient installés, les humains étaient heureux d'avoir des petits animaux, pas très dangereux, qui s'occupaient des rongeurs et aussi des serpents et des scorpions, qui ont donc débarrassé les villages de ces pestes et des animaux nuisibles et venimeux. Et les chats étaient contents, ils ont juste vécu leur vie comme d'habitude, mais ils avaient plein à bouffer.
Donc ils sont restés près de l'homme, hein, près du garde-manger, on va dire.
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors comment du Proche-Orient, donc le chat a conquis le reste du monde, en particulier l'Europe. Vous parlez dans votre étude de deux vagues de domestication de chats.
Oui, donc la première vague dont j'ai déjà parlé, on voit les apparaître en Europe. Donc ça, c'était au début du néolithique. Vraiment,
oui.
Donc ça nous... Et puisqu'on a ces restes de sites archéologiques qui témoignent d'occupation humaine, on sait qu'ils étaient en compagnie avec des humains. Donc à partir de là, on sait de l'archéologie, aussi maintenant de la paléogénétique, que les premiers agriculteurs venant du Proche-Orient ont colonisé l'Europe par deux voies de migration, par le continent, donc le long du Danube, et sur la Méditerranée. Donc il y avait deux grandes vagues. Et les chats sont allés avec. Et après, nous, on a vu une deuxième vague de diffusion. Je ne sais pas si on peut dire domestication, mais c'est possible. Donc une deuxième vague, c'est de diffusion, c'est produit à partir d'Égypte. Et ça, c'était nous, dans notre jeu de données plus tard, on voit une signature génétique apparaître en Égypte, au premier millénaire avant Jésus-Christ, et donc ces chats ont très vite été diffusés dans la Méditerranée, et puis quelques siècles après, ils apparaissent déjà sur la mer Baltique, dans des ports de vikings.
Ah oui,
avec
les vikings.
Ils sont très très vite.
Ils ont été loin,
conquis,
très vite.
L'ancien monde. On les voit aussi en grande quantité. Donc, par exemple, dans un site en Turquie, on voit que la moitié est toujours ce chat anatolien qui doit être dû vivre dans les villages des premiers agriculteurs en Anatolie. Mais on voit en même quantité à peu près aussi ce chat égyptien. Et puisque l'autre était déjà sur place, donc ça nous montre qu'il y avait vraiment une préférence pour ce chat égyptien pour qu'il soit arrivé à s'imposer à cette
ça veut dire
fréquence.
Que les Égyptiens adoraient les chats, on le sait tous, hein, ils, pour eux c'était un animal sacré, et du coup ils ont influencé comme ça l'Europe par leur amour de ces chats et leur utilisation, c'est ça?
Par leur amour, je sais pas, on dit qu'il y avait même une interdiction de sortir le chat d'Égypte.
Ah oui, c'était tellement sacré.
Ils étaient extrêmement attachés au chat. Donc ils voulaient pas que le chat soit exporté. Mais un chat se laisse de toute façon pas interdire d'aller là où il peut aller, et là où c'est intéressant pour lui, c'est-à-dire dans les ports où il y a des poissons et sur les bateaux où il y a du passe-poisson et des masses de rongeurs. Donc c'était évidemment pour tous ces marins qui ont fait le commerce international dans l'ancien monde, les marins et les aussi les soldats, hein, les armées sur les bateaux, c'était comme les Vikings aussi, hein, mais aussi les Romains ou d'autres, c'était extrêmement intéressant d'avoir les chats sur les bateaux parce que les rongeurs sont extrêmement nuisibles sur les bateaux. Ils mangent pas seulement la nourriture, ils souillent la nourriture, mais ils détruisent aussi tout ce qui est organique
comme
le cordage et tout ce qui est sur les bateaux. Donc c'était extrêmement important et ça se voit aussi, il y avait vraiment par exemple la Navy anglaise, donc la marine anglaise, c'était obligatoire jusqu'au 19e siècle d'avoir des chats
sur les bateaux.
Et oui, c'était la meilleure solution pour protéger les bateaux et, et les marins.
Avant les raticides.
C'est ça. On revient dans un instant. Eva Maria, merci d'être là, 7h46. Et puis dans quelques instants, on découvrira ce dessin animé qui est au cinéma actuellement depuis le 21 juin dernier. C'est le grand méchant renard. Benjamin Renner, qui est le réalisateur, sera avec nous. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà le retour de notre rendez-vous animaux. Et nous sommes toujours avec notre invité sur l'histoire du chat domestique. D'après ces résultats d'une vaste étude de paléogénétique, Laetitia.
Voilà, et nous sommes toujours avec Eva Maria Gelsch. Alors Eva Maria, vous êtes intéressée au pelage du chat et son évolution. Alors qu'avez-vous découvert?
Effectivement, on a pu analyser un gène qui est responsable pour le patron du chat.
Donc la couleur?
Pas la couleur. Dans l'état naturel, donc chez les chats sauvages, c'est les chats tigrés. Mm-hmm. Donc c'est un patron de tigre. On connaît les gènes et donc on connaît aussi la mutation, donc le changement qui est responsable pour le changement de ce patron tigré qui devient marbré.
Oui.
Et aujourd'hui, les chats domestiqués ont en haute fréquence ce patron marbré. Et nous, on a donc analysé ça dans nos échantillons et on a vu que ça apparaît très très tard dans l'histoire de la domestication du chat. En fait, à partir du 13e siècle, voire même plus tard, à une fréquence élevée.
Ça veut dire que jusqu'au 13e siècle, c'était surtout des chats tigrés?
Oui, c'était apparemment uniquement des chats tigrés.
Incroyable.
Et après, ça commence à apparaître dans la population des chats domestiqués. Tous les chats sauvages sont tigrés, mais les chats domestiqués deviennent plus en plus marbrés. Et donc, ça nous montre que, en fait, les chats sauvage, qui est devenu le chat domestique, a changé très peu. L'homme a apparemment pas exercé une grande pression de sélection, comme on dit, sur ce chat, n'a pas dû changer sa morphologie. Probablement, ce qui a changé le plus, et ça on voit aussi aujourd'hui dans les génomes des chats actuels, domestiques, un peu le comportement. Hein. Comme j'ai dit au début, il tolère surtout les autres chats et les humains, donc il a changé là un peu son comportement. Il n'est plus l'animal solitaire qu'il était.
Merci Eva Maria.
Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci. Merci pour toutes ces études aussi sur ce qui est bien, c'est que de plus en plus on s'intéresse aux chats. On s'est beaucoup intéressé aux chiens, même dans son histoire, son évolution, etc. Et moins aux chats, et maintenant, ben voilà,
il y a de plus en plus de l'homme depuis très longtemps,
mais
hein,
oui,
aussi, hein.
Mais qu'il n'a pas subi de pression de sélection comme non. Le chien, et qu'il a gardé ce côté sauvage, bien sûr.
Exactement. 7h52, c'est RMC, Laetitia, depuis le 21 juin dernier. Vous pouvez aller au cinéma et écouter ceci.
Hors de notre chemin, sinon on casse la tronche.
Laissez Monsieur Loup tranquille, les enfants.
Et Loup, c'est que des gros sacs à caca.
Allez, jouez ailleurs. Bon, ça va, toi?
Gros sac à caca.
Ah non, mais il le pense pas, hein, rassure-toi.
Qui a peur du sac à caca? C'est pas nous.
Mon ami, je crois qu'il est grand temps de déguster ces petites volailles insolentes.
Quoi, maintenant? Mais t'avais dit qu'on les mangerait quand ils seraient gros et gras.
Ils sont bien assez gros et gras.
Mais... Voilà, c'est le c'est
qui
les renards
qui
ont envie. C'est les renards qui ont envie de manger. On a l'impression des petits poussins.
Voilà, ben oui.
Et c'est le grand méchant renard.
Voilà, c'est un des trois contes du film d'animation Le Grand Méchant Renard et autres contes de Benjamin Reiner et Patrick Imbert. Et nous avons avec nous Benjamin Reiner. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Alors, le film, votre dernier film est sorti mercredi dernier et il n'y a que d'être bonnes critiques. Bravo. Alors, c'est l'adaptation de votre bande dessinée sortie en 2015 qui elle aussi a été multiprimée. Donc comme je disais, il s'agit de trois contes, dont un conte avec un grand méchant, enfin plutôt un grand gentil renard qui voudrait être un grand méchant renard, hein, c'est un peu ça. Donc il y a beaucoup de héros de la basse-cour, des animaux de la basse-cour, et puis des animaux sauvages qui tournent autour de la basse-cour. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est comment choisissez-vous vos héros animaux. Quelle est votre source d'inspiration?
Oh bah les héros animaux, disons que c'est un truc quand même qu'on retrouve dans beaucoup de contes, de fables, de choses comme ça que moi je.
Oui, il y a beaucoup lisais, d'animaux.
je lisais les quand j'étais petit comme tout le monde, on a appris les fables de La Fontaine. Je lisais aussi beaucoup de le roman de Renard. En fait, ça me fascinait cette histoire. C'était vraiment une histoire que j'aimais beaucoup. Puis même les Disney, en fait, quand on y pense, tous les Mickey, les Donald, tous ces animaux anthropomorphisés, c'est ça. C'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Et en fait, le fait d'avoir des animaux comme ça qu'on va utiliser comme des humains, c'est assez agréable parce qu'on évite toutes les questions de culture, d'où ils viennent, de quel pays, tout ça, et on se concentre que sur on a tout de suite une sorte de préjugé sur le personnage, parce qu'un loup, on va se dire qu'il est méchant, le renard, on va se dire qu'il est rusé, tout ça, et ça permet vraiment de jouer justement avec ce thème des préjugés, entre guillemets, avec les animaux, et c'est ça que j'aimais bien faire dans cette histoire.
Alors pourquoi les films d'animation pour enfants, mais ça c'est vraiment une question, ont presque toujours des animaux humanisés, ouais. Donc comme héros. Ça c'est presque voilà la règle. Alors
ouais, c'est vrai qu'il y a peu de films pour adultes avec des animaux héros, en tout cas.
Oui.
L'inverse n'est pas vrai. Enfin, n'est pas le cas. Mais alors je saurais pas vraiment dire. Moi je sais que c'est quelque chose qui moi me touche, donc que je reprends parce que je trouve ça ultra pratique en fait pour justement symboliser les choses, quoi. C'est-à-dire que un enfant va pas forcément voir qu'un humain est méchant, alors qu'un loup, il va tout de suite être méchant, quoi. Il va tout de suite comprendre le rôle du grand méchant loup ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est aussi une manière de symboliser les personnages et de rendre ça encore plus clair pour l'enfant.
Quel est le plus difficile quand on passe d'une bande dessinée à l'animation? Parce que, voilà, la base, c'était quand même votre BD.
Ouais.
Comment mettre ça en mouvement? C'est facile ou c'est difficile?
Bah, disons qu'il faut réussir à faire bouger toutes les cases, et comme il y a beaucoup de dessins, ça fait beaucoup de travail déjà. En fait, le plus dur, moi je dirais, c'est sur la question du rythme, c'est-à-dire que une bande dessinée, ça met un certain temps à être lu, et là il fallait le réduire dans des courts-métrages de 26 minutes à chaque fois, donc il fallait sacrifier des scènes en fait, et ça c'est pas forcément facile parce qu'il faut se dire bon bah cette scène là bah, je peux pas la mettre alors que je l'adore, il faut la remplacer par une autre et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plein de choix comme ça, un peu de sacrifice entre guillemets qu'il faut faire, et puis aussi de un truc tout bête, mais c'est que là je vais devoir leur trouver des voix aux personnages.
Oui, alors comment choisir une voix qui correspond à un animal? C'est quand même. Comment vous faites le casting? Est-ce que vous avez des voix? Vous vous dites bah ça serait plutôt le cochon, la poule.
Bah disons que après non, c'est plus des caractères, c'est-à-dire que si le renard il avait été féroce et cruel, j'aurais pris la voix de je sais pas moi, de celui qui joue Al Pacino, un personnage un peu effrayant. Alors là le renard, je voulais un personnage qui est ridicule, qui fait pas du tout peur quand il parle et tout ça, et j'ai trouvé un acteur qui avait cette voix, donc pour lui, il a pas une voix très très impressionnante ni effrayante, mais en tout cas, il a vraiment cette voix drôle et du personnage comme ça qu'il a beau hurler, ça fait peur à personne en fait. C'est ça qui était assez génial. Donc voilà, on cherche, on essaie de trouver ce qui correspond le mieux. Souvent, on écoute la voix on enregistre des voix, on cherche les voix dans les films et puis on colle l'image du renard sur la voix et puis on voit si ça fonctionne, on voit si ça passe et ensuite on va caster la personne ou alors on la choisit direct.
Benjamin, merci beaucoup.
Alors, c'est un très beau, c'est un film tendre, c'est un film drôle. Alors, il y a un peu de Jean de La Fontaine dans ses contes. Alors, faut savoir qu'il y a une double lecture pour moi aussi, dans le sens où c'est pour les enfants, mais aussi pour heureusement adultes. Pour les adultes, parce que les adultes accompagnent les enfants au cinéma. Profitez-en d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la fête du cinéma. Et merci beaucoup, Benjamin. Bravo pour votre film d'animation. Je répète, Le Grand Méchant Renard et autres contes. Allez-y en famille.
Voilà, qui a fait un excellent démarrage mercredi dernier. Hein. Bravo, Benjamin.
Beaucoup de bonnes critiques.
Et rappelons que vous avez même été nommé aux Oscars pour votre précédent long métrage, c'était Ernest et Célestine.
Voilà. Et Benjamin, vous avez reçu un César. Donc j'espère que vous recevrez aussi un César pour celui-là.
Voilà. Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, on sera là.
Je vous embrasse tous. Bon week-end, bon dimanche, surtout bonne semaine et à dimanche prochain.
Et Jean-Luc Monroy est là. Il ne ressemble pas à un renard, mais c'est quand même le renard de l'automobile.
Il est rusé comme un renard. Bonjour.
Dans un instant, l'auto sur RMC avec Jean-Luc. Vos questions auto au 32-16, on revient après la météo et les infos, à tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.